Salutations Valère Correa.
Salut Eric, salut Karine.
Salut Valère.
Retour ce matin sur un rapport qui a décortiqué notre pollution numérique.
Oui, alors du coup, on va pouvoir mettre de côté les sceptiques ou les cyniques qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu sortir de fumée, qu'il n'y avait pas de pot d'échappement sur un ordinateur. C'est désormais bien connu. Nos usages numériques, en effet, ont un impact écologique significatif. En effet, c'est ce rapport Adem Arcep qui nous l'a rappelé il y a une quinzaine de jours. On a appris que la consommation électrique liée au numérique représente quand même 10% de la consommation annuelle de plus de 8 millions de foyers. Enfin, c'est quand même assez incroyable. 2,5% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et cerise sur le gâteau, oserais-je dire, plus de 62 millions de tonnes de ressources sont mobilisées chaque année pour le numérique.
C'est vrai que c'est impressionnant. Mmh. Il faut dire tout simplement que le numérique est aujourd'hui absolument partout.
Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un équipement, j'allais dire, bien fourni en France. Une quinzaine de terminaux par foyer en moyenne, des smartphones, des consoles, des tablettes, des télés, des box internet. Saviez-vous par exemple que dans le monde, chaque heure, on échange entre 8 et 10 milliards de mails?
C'est vrai que c'est impressionnant.
C'est absolument colossal, ça donne la tendance.
Alors, ce qui pollue le plus dans le numérique, on parle parfois des vidéos, il y a aussi les minerais rares dans nos smartphones.
Ouais, c'est là que cette étude dont on parlait est intéressante, parce qu'elle fait le tri, justement, avec trois grandes sources de pollution. Les appareils électroniques d'abord, jusqu'à 92% de l'impact numérique, c'est énorme. Puis suivent les centres de données, donc les fameux data centers, et les réseaux fixes, les réseaux mobiles pour accéder à l'Internet. En pole position donc, les utilitaires comme une télé, un smartphone, une tablette, une imprimante. Et le gros de l'impact se joue sur la phase de fabrication.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour réduire notre bilan numérique?
Eh bien on regarde les appareils tout simplement. De quoi avons-nous vraiment besoin? Est-ce que c'est le moment de remplacer tel ou tel utilitaire? Et par quoi du neuf, de l'occasion? C'est vrai que le reconditionner par exemple est une solution, mais pas à n'importe quelle condition. C'est ce que m'a expliqué Raphaël Guastavi. Il est chef du service éco-conception et recyclage à l'ADEME.
La condition de ne pas changer son téléphone reconditionné tous les ans, sous prétexte qu'il est reconditionné. Ou encore, il faut pas non plus aller chercher du matériel reconditionné, mais qui corresponde à la dernière version de votre marque préférée ou l'avant-dernière version. Ça n'a pas non plus trop de sens. Ça reste une production, du coup, avec des délais d'usage courts. Donc, le reconditionner, c'est très bien et on le pousse. Il y a aussi des façons d'agir en tant que consommateur ou en tant que reconditionneur, d'ailleurs, pour encore améliorer cet impact environnemental versus le renouvellement de produits neufs.
Petite question en studio, qui n'a pas de téléphone portable qui dort dans un placard ou dans un tiroir?
Oh là 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 là.
Je crois que j'en ai plus, mais c'est depuis peu de temps.
Si, moi j'en ai au moins.
Bon, il n'y a rien d'original, il y a environ 100 millions de téléphones qui dorment dans les placards français, c'est quand même assez énorme, alors qu'ils pourraient être recyclés. Et puis il y a cette légende urbaine qu'il ne faut pas croire, en fait, le recyclage n'est pas une chimère pour les téléphones aussi, c'est pas la solution, mais c'est nettement mieux que de laisser dormir des minerais rares, par exemple, dans un tiroir qu'on va extraire en Afrique dans des conditions plutôt inacceptables, disons-le. Et puisque tous les revendeurs doivent désormais reprendre nos téléphones pour les diriger vers une filière de recyclage, mais autant en profiter. Au passage d'ailleurs, les reconditionneurs vous rachètent parfois vos vieux appareils. Karine, renseignez-vous.
Alors ça, c'est pour c'est pour les appareils. Il y a aussi une réflexion sur nos usages. Et là, on peut essayer de faire plus sobre.
Bah, vous savez, Netflix, par exemple, c'est à peu près 25% de la bande passante en France. Donc ça peut faire réfléchir. Mais voici un petit récap par Raphaël Guastavi.
À partir du moment où on a bien conscience que la partie des terminaux, donc vraiment de nos appareils chez nous, représentent le plus gros de l'impact, c'est faire attention à ces terminaux. Les utiliser le plus longtemps possible, ne pas céder à la tentation de la nouveauté. Après, le deuxième point, c'est éviter le suréquipement, éviter l'objet un peu gadget qui va servir deux fois et finira dans un tiroir. Quand on achète du neuf, regardez les indices. Il y a notamment l'indice de réparabilité. Puis après, c'est les usages. Et donc, éviter finalement cet usage un peu boulimique de tous ces services numériques qui sont pléthores, qui pour certains ont une grande utilité et d'autres sont peut-être un peu plus gadgets.
Et l'interview complète de Raphaël Guastavi pour l'ADEME vient d'être publiée et c'est sur l'infodurable.fr.
Et votre social lab, votre chronique Valère Correa, c'est évidemment sur franceinter.fr.